Très bien, on commence notre cinquième étude, toujours dans la deuxième lettre de Timothée. Donc ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là, qui étaient avec les enfants, vous avez eu un petit feedback à table, je crois. Donc effectivement, on faisait sur la formation pour l'enseignement et la transmission de l'enseignement. Donc on a vu une première partie à partir du chapitre 1 toujours, et une partie du chapitre 2 qu'on a vu. Et là, on va avancer un peu plus. C'est vrai qu'en 5 études, on n'aura jamais saturé une lettre comme celle-ci. D'ailleurs, ni aucune lettre de Paul, hein. Il faut plusieurs heures pour plonger dessus. Et donc là, je vous propose le deuxième chapitre maintenant, donc du verset 14 à 21. 2 Timothée chapitre 2, versets 14 à 21. De Timothée chapitre 2, versets 14 à 21. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voilà, on va commencer avec une prière pour que le Seigneur nous instruise. Seigneur, nous te prions que tu nous aides encore ce matin, après avoir vu ce matin et maintenant que nous sommes dans cet après-midi, pour l'enseignement de ta parole. Et nous voulons repartir de ces lieux transformés, et parce que tu veux travailler en nous, et nous savons que ton travail est bien meilleur que toute formation ou tout travail que le monde nous offre, parce que c'est ton esprit qui travaille et cela change. Merci pour l'Esprit Saint, pour ton esprit que tu nous as laissé, que tu nous as envoyé et qui habite aussi en nous. Guide-nous, guide chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je vous propose ce plan pour cette deuxième étude, donc la formation pour l'enseignement, la transmission de l'enseignement. On va voir aussi un peu le contre-enseignement, dans le sens de faux enseignement aussi dans ce passage, parce que Paul il en parle du verset 14 à 21. Donc là je vous ai proposé un plan en prenant quelques versets par rapport à d'autres qu'on aura plus d'occasion à voir. Donc dans un premier temps on va voir le vase d'honneur dont il parle ici, le vase d'honneur et le vase de déshonneur. Qui sont-ils? Quelle est la compréhension de Christ par rapport à l'endurcissement du cœur humain? Donc on va recouper avec d'autres passages qui parlent de Paul, qui parle du vase d'honneur, du vase de déshonneur, comme c'est indiqué ici. Et puis dans un deuxième temps, on verra aussi les caractéristiques des faux enseignants illustrées par le vase de déshonneur. Donc ça répond un peu à la première question déjà, qui sont-ils? Troisièmement, on va voir le caractère de l'enseignant selon Dieu illustré par le vase d'honneur. Juste avant, François, tu parlais des vases dans les psaumes, c'est ça? Tu peux dire ce qui te vient à l'esprit? C'est intéressant.
Il me semblait que, je sais plus, dans les psaumes, on parlait aussi du vase, des vases qu'il faut qu'on reçoit dans un vase, et puis il faut le transvider dans un autre vase pour justement ça parle de la, l'enseignement. Ça. Mm-hmm. Il me semble que c'était dans les psaumes.
Il y a quelque chose comme ça, ouais.
Il me semble, hein.
En tout cas, enfin, on va voir un peu ce que c'est ce vase et surtout par rapport à d'autres passages aussi que Paul il prend, et quasiment les mêmes termes qu'il utilise pour parler de vase d'honneur, vase de déshonneur. Donc, qui sont-ils? Quelle est la compréhension de Jésus-Christ sur ces questions? Alors, le mot honneur, c'est d'ailleurs dans Timothée, je ne sais pas si l'apôtre Paul joue avec, fait le jeu de mots, parce que Timothée, ça vient de Timène, qui veut dire celui qui est honoré de Dieu. Théos, c'est Dieu, Timès, c'est honneur. D'où le mot vase d'honneur, et atimien, donc c'est tout le contraire, c'est déshonneur. Ou parfois dans les traductions, on a aussi d'un usage vil, ici, dans le verset 20. Donc vase de d'honneur, vase de timen, et vase de déshonneur, vase de atimien. Donc je crois qu'il fait un beau jeu de mots avec le nom même de Timothée. Donc je note en fait dans ce verset exactement les mêmes termes qui sont repris dans Romains 9, 21. Donc Romains chapitre 9, verset 21. Est-ce que quelqu'un qui l'a peut lire?
Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil?
Merci. Donc c'est quasiment les mêmes mots en fait que l'apôtre y prend ici, vase d'honneur, vase d'un usage vil. Donc là Louis II il a utilisé usage vil, mais de déshonneur aussi qui est indiqué ici. Donc dans les deux versets, les vases kéos, c'est le mot hein, qui indique pas seulement vase dans un sens un dispositif où on met les plantes. Là on voit par exemple des vases où on a des plantes, mais ça peut être aussi toutes sortes d'ustensiles ou accessoires. Ça peut être un outil que l'on peut trouver dans une maison pour toutes sortes d'usages finalement. Et donc dans le contexte ici, nous voyons dans 2 Timothée que c'est vase de déshonneur ou vase de argile, selon les traductions, ou vase de bois. C'est ceux qui se détournent de la vérité. Et il précise leurs caractéristiques qu'on va étudier plus tard, hein, concernant les faux enseignants. Et dans le contexte de Romains 9, 21, il est question du vase d'honneur et de vase de déshonneur aussi, dont le potier a fait ses vases. Donc l'apôtre explique aux Israélites, notamment, dans ce fameux chapitre de 9, au sujet de la miséricorde que Moïse a obtenue, et par extension la miséricorde au peuple même d'Israël, qui a obtenu pour que le plan de salut soit accompli, versus l'endurcissement de Pharaon. Et cela amène vers un jugement très sévère aussi. Hein. Vous avez cette histoire sur la mer Rouge, oui, des Égyptiens qui sont noyés presque dans la mer. Pour la petite histoire, quelqu'un disait, j'ai trouvé ça très marrant, quelqu'un qui ne croyait pas aux miracles qui sont écrits dans la Bible, qui disait, ah, de toute façon, les Israélites ont traversé pas vers la mer Rouge aussi, qui s'est divisée en deux, mais quand ils ont traversé, c'était que quelques centimètres, donc ils ont marché sur la mer, c'est comme ça que ça s'est déroulé. D'accord. Alors on leur a répondu, alors ça serait un plus grand miracle que si toute l'armée d'Égypte s'est noyée dans de l'eau à 5 centimètres. Enfin, en tout cas, voilà, il y a eu un jugement et nous croyons que vraiment ça s'est divisé en deux. Et puis, tout comme la mer, le poisson a ouvert sa bouche pour engloutir Jonas et pour le laisser vivant aussi plus tard. Donc, c'est l'endurcissement obsédé ou entêté de Pharaon qui est indiqué ici dans l'illustration de la vase de déshonneur. Bon, bien sûr, on ne va pas trop rester dans les débats sur ces questions. Ça fait couler de l'encre hein, dans l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qui endurcit le cœur? Parce qu'ici, d'un côté, il est question de Pharaon et de toute sa endurcissement, et de l'autre côté, il est question de ces faux enseignants dont Paul parle avec cette même illustration. Et donc, qui endurcit le cœur? Comment comprendre la responsabilité de Dieu et de l'homme? Donc, je sais que c'est un sujet très passionnant dans certains milieux, mais on va très rapidement voir ces questions, surtout pour comprendre un peu cette notion de pourquoi Paul utilise ces deux terminologies, les mêmes, dans ces deux passages. Qui est responsable, d'un autre côté, dans le passage de 2 Timothée, on peut dire, qui est responsable alors pour sombrer dans les faux enseignements, et surtout dans le contexte même où il y avait les apôtres qui étaient encore vivants, hein. On n'était même pas dans la phase après les apôtres. Paul était toujours vivant quand il y avait ces faux enseignants dont il parle dans ce passage que nous avons lu dans notre lettre à l'étude. Donc, qui est responsable que le cœur de Pharaon s'endurcisse? Qui est responsable qu'il y ait des faux enseignements? Pourquoi ils sont devenus insensibles? Comment ça s'est endurci, leur cœur, face à la propre cruauté de Pharaon? Est-ce que Dieu prend plaisir à endurcir lui-même le cœur de Pharaon? Ou les cœurs des hommes en général? Donc c'est des questions en fait qui sont utiles à se poser, des questions pour comprendre déjà dans la parole même.
Pourquoi Dieu a attendu aussi longtemps pour que son cœur soit plus endurci, qu'il ait tous ces fléaux?
C'est ça, il y a eu tant de patience qui a été donnée. Il a usé de patience. Mais la question qui revient souvent sur ces vases d'honneur ou de déshonneur qui sont là, aussi bien en Égypte que dans le contexte de l'Église, il y a des faux enseignements. Donc Dieu use de patience. Et l'illustration dans ces passages montre que Dieu, il est omniscient, il est prescient. Il n'est pas surpris. Ça, c'est ça qu'il faut dire toujours. Dieu n'est jamais surpris. Mais il n'est pas non plus responsable ni l'auteur si des vases ou outils ou instruments deviennent déshonorants. Donc pour répondre à la question de Romains 9, 21, peut-être qu'on peut lire d'autres passages, parce que dans Romains 9, 21, ce qu'on voit c'est l'endurcissement du cœur de Pharaon. Dans le verset 17, l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Et c'est dans ce contexte qu'il va parler du potier, de l'argile et du vase de déshonneur. Dans Jean chapitre 12, 37 à 40, est-ce que Nielsen, tu peux peut-être lire?
Jean chapitre 12,
verset 37 à 40.
Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'il ne se convertisse et que je les guérisse.
Oui, voilà, j'ai jamais bien compris de peur qu'il se convertisse, parce que le Seigneur il veut que tout le monde se convertisse.
C'est ça qu'on va étudier un peu plus avec d'autres passages qui reprennent, ouais. Si vous voulez, ouais. Ce passage il reprend Ésaïe 6, 9 à 10. Mmh. Et Marie, peux lire Maria Marie. Est-ce que tu peux lire chapitre 6 d'Ésaïe, versets 8 à 10? S'il te plaît.
Ésaïe 6.
6, c'est là.
8 à 10.
8 à 10. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Et je dis alors, va et dis à ce peuple, vous attendez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rende insensible le cœur de ces peuples, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'attende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne s'y envertisse point, ni soit point guéri.
Guéri. Merci.
Ça reprend la même chose.
Alors, vous voyez bien que le Seigneur est en train de reprendre les Écritures d'Ésaïe. Et il donne la compréhension des Écritures d'Ésaïe. C'est un peu comme dans le sermon sur la montagne. Jésus, il reprend la loi et il dit, je vous explique c'est quoi. C'est un peu le parallèle qu'il est en train de faire sur ces deux. Donc, c'est exactement le même passage que Jean y prend. Et j'aimerais qu'on puisse lire aussi Actes 28, 26, 27. Actes 28, 26, 27. Alors, je l'ai. Actes 28, 26, 27. Va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Même passage, cette fois-ci c'est Paul qui prend. Il est vers la fin, un peu vers la fin de sa vie et on croit qu'il est possible qu'il a écrit à partir de là, de cet appartement, la lettre à Timothée. Il est sous garde, on va dire... libre parce qu'il était dans un appartement et c'est Paul qui ajoute ces mots en reprenant encore une fois la lettre de le prophétie de Ésaïe chapitre 6. Donc l'endurcissement du cœur de l'homme, l'endurcissement du peuple d'Israël, c'est ça qu'Ésaïe dit. Et Paul il parle ici des Juifs et Jésus-Christ il parlera aussi des Juifs dans Jean, dans ce chapitre. Donc comment on va comprendre maintenant la formation du vase d'honneur et du vase de déshonneur? Dans le contexte de Romains 9, il est question de Pharaon comme vase de déshonneur. Comment il se forme? Est-ce que Dieu est entièrement responsable et est-ce qu'il intervient arbitrairement de son plein gré pour endurcir le cœur de Pharaon dans Exode ou bien pour endurcir le cœur des Israélites? La question est claire et rhétorique. On ne peut pas dire c'est Dieu qui est responsable. Non, Dieu n'est ni responsable pour les Israélites qui endurcissent, qui s'endurcissent.
Il sait que le cœur de Pharaon est dur de toute façon.
Et le cœur de Pharaon, non seulement il sait qu'il est dur, mais il s'endurcit. Pharaon s'endurcit. Donc la question de la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme m'a laissé beaucoup d'auteurs parler, écrire beaucoup de livres, très intéressants parfois. Parmi les théologiens, il y a eu même des grands débats sur ces questions. Mais en poussant une fausse compréhension de la souveraineté de Dieu, c'est ça que j'aimerais insister, on peut faire de Dieu l'auteur direct du mal ou de la cruauté de Pharaon. Et la cruauté de Pharaon a causé quand même des dégâts parmi le peuple d'Israël quand ils étaient en période d'esclavage. Et c'est ça que Pharaon a démontré vis-à-vis du peuple d'Israël. Donc une troisième question que je suscite, et dans notre passage à l'étude de Timothée, 2, 14, 21, je reviens sur ce passage, les faux enseignants maintenant sont comparés aux vases de déshonneur. Donc il donne même des exemples, il y a des noms de faux enseignants dans ce passage de Timothée. On parle de Hyménée, on parle de Philète. Et donc Paul, il mentionne directement des personnes. Donc pour tout cela, il est toujours utile de comprendre ce que Jésus prêche. C'est pour ça qu'on a lu Jean chapitre 12 tout à l'heure. Est-ce que... quelqu'un peut lire Matthieu 13, 13 à 6 aussi. Matthieu 13, 13 à 16, si tu l'as.
Et quel verset?
13 à 16.
Verset 13 au verset 16. Et le chapitre 13 aussi.
Le chapitre 13.
Verset 13.
Verset 13 à 16.
C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse.
Merci. Et là, Jésus-Christ donne des informations supplémentaires en disant de peur qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, la pensée de Dieu, c'est de guérir le peuple. Mais ils ne comprennent pas, ils sont insensibles, ils sont incrédules et ils ne se convertissent pas. Pourtant, dans Ésaïe, il dit « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui ses yeux. »
Mais c'est Jésus qui a fait endurcir leur cœur, le peuple d'Israël, le peuple, ils étaient dans l'Égypte.
Ils étaient dans les
L'Égypte, avec Pharaon, ils n'étaient pas, ils ont, c'est pas Jésus qui a endurci, c'était
endurci.
Leur cœur.
Toute la question est là. Justement, dans Ésaïe, il dit « Rends insensible ». Et Jésus, il dit « Ils sont insensibles, ils ont endurci leur cœur ». Donc, comment on doit comprendre maintenant ces passages que l'apôtre Paul y reprend? Il dit aussi, par rapport aux Juifs, « Ils ont endurci leur cœur ».
Ouais.
Donc, toute la question est là, justement. Il est donc utile de comprendre ce que Jésus prêche. Bien sûr, là, il faut reprendre ces passages. Là, je vous lance une étude pour relire, bien sûr, dans les temps libres. Et la méthode dont on est en train de voir, c'est que quand il y a un passage parfois difficile dans la Bible, il faut aller voir tous les passages qui font directement référence à ce passage. Donc, d'un côté, il dit « rend insensible le cœur », et de l'autre côté, il dit « leurs cœurs sont devenus insensibles ». Ils ont endurci leur cœur. Et c'est ça que je suscite. Donc, concernant l'endurcissement du cœur humain, qu'il soit Pharaon, qu'il soit son propre peuple d'Israël, à qui Ésaïe s'adresse, ou qu'il s'agisse des hommes insensibles à la vérité de Dieu, donc Hyménée, Philète, les faux enseignants, ce sont des vases de déshonneur dont Paul il dit. Donc il dit même leur enseignement c'est comme une plaie, hein, une plaie infectée et qui ronge. C'est une gangrène finalement. Et donc tout ce qu'on a fait maintenant c'est mettre des piliers de texte. Donc là en l'occurrence on a pris 2 Timothée chapitre 2 sur ces vases de déshonneur. On a pris Romains 9, 17 à 21, on a pris Ésaïe 6, 8, et puis on a collé Matthieu, Jean et Actes. On a lu ensemble ces passages pour qu'on puisse avoir la juste idée pour traiter la question, parce que c'est comme la Tour Eiffel, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà visité la Tour Eiffel, il y a 4 piliers.
Oui.
Vous avez été, Marie-Madeleine elle a été. Donc, imaginez un pilier qui se casse, parce qu'on appelle pilier nord, pilier sud, est, ouest. Tout s'écroule.
Ah ben oui.
C'est un peu ça l'idée dans les textes de la Bible, dans les textes de Dieu, dans la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui est difficile, il vaut mieux aller voir d'autres textes qui font référence. Et parfois même, les auteurs utilisent des mots identiques. Paul, c'est lui qui écrit à Timothée dans sa deuxième lettre. C'est lui qui écrit aux Romains. Et il utilise, voilà, les terminologies et les illustrations qu'il utilise, c'est les mêmes. Donc, à qui il fait référence ? Pourquoi il fait référence et comment Jésus il comprend maintenant l'endurcissement parce qu'il parle bien de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Donc d'un côté, nous lisons la souveraineté de Dieu ou la liberté de Dieu, sa capacité de faire surgir la puissance de sa gloire pour faire connaître sa colère, sa justice, même au sein des grandes adversités contre Dieu, telles celles de Pharaon ou des faux enseignants contemporains à la période des apôtres, de l'apôtre Paul, et aussi qui existe aujourd'hui encore. Même si on ne peut pas le nommer, il y a des faux enseignements et des faux enseignants aussi. Et de l'autre côté, il y a cette responsabilité de l'homme, de tous les hommes, sans exception. Et ce sont des hommes créés par Dieu, tous, sans exception. Et c'est illustré par le potier devant ses propres vases. Donc ce sont les vases du potier, mais d'honneur pour certains et de déshonneur pour d'autres. C'est-à-dire des hommes responsables que Dieu lui-même a librement créés, dont certains l'honorent et d'autres le déshonorent. Timen à timen. C'est ça les mots là. Et l'endurcissement du cœur en connaissance de cause et même consciemment, ils endurcissent leur cœur. Parce que Jésus, il dit, ils sont devenus insensibles de peur que je les guérisse et qu'ils ne se convertissent. Et donc, ce que Ésaïe dit et ce que Jésus dit dans Matthieu, Jean et ce que Paul reprend aussi, Paul et Jésus se rejoignent ensemble en prenant Ésaïe. c'est que la vérité de Dieu doit être continuellement prêchée. Et qu'est-ce qui se passe quand on prêche et on prêche, on reprêche? Soit les cœurs sont sensibilisés et reçoivent, c'est oui, un cœur bonne terre, ou bien ça s'endurcit. Donc, quand il dit à Isaïe, endurcis le cœur de ce peuple, il dit, continue à prêcher la parole. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, il dira à un autre prophète. Donc, ce qu'on doit comprendre quand il écrit, il endurcit qui il veut, et il fait miséricorde à qui il veut, ou quand il dit à Isaïe, endurcis le cœur du peuple, ce n'est pas Dieu librement, d'une manière arbitrairement endurcie, et décide d'endurcir, tiens, toi, je vais endurcir. Non. Au contraire, il dit, prêche la parole. Continue à prêcher, et cette parole même, qui est prêchée, qui n'est pas reçue, ça va endurcir le cœur de certains peuples. Donc, les peuples d'Égypte, Pharaon, Israël, les faux docteurs aussi, parce que Paul y fait référence à ceux-là aussi, et même des juifs à qui il parle à Rome, lorsqu'il a été incarcéré à Rome. Donc, nous ne devons pas comprendre que Dieu a le droit souverain de condamner certaines personnes. Du moment, je ne le comprends pas comme ça. Je ne dis pas que Dieu a le droit souverain de condamner certaines personnes en voulant arbitrairement endurcir, en voulant arbitrairement boucher les yeux, rendre leurs cœurs insensibles. Mais Dieu commande à Isaïe de prêcher la vérité à ce peuple continuellement, de dispenser l'enseignement de sa vérité en toute occasion, comme Paul il a fait en 100 ans, sans se lasser. Très tôt le matin, il doit se réveiller, Isaïe, jusqu'au coucher du soleil, il doit prêcher la parole et accomplir sa mission de prêcher continuellement, tout comme Moïse avait prêché devant Pharaon dès le matin. Il arrive tôt et puis il part sans répit, et il va parler au sujet des fléaux, alors que ce dernier endurcit constamment son cœur. Et c'est en cela qu'on comprend, endurcit le cœur de ce peuple, endurcit le cœur de Pharaon. Il endurcit qui il veut. C'est en demandant à ses serviteurs de prêcher la parole, dispenser la parole de la vérité continuellement. Donc plus la parole a été prêchée, plus leurs oreilles, ou leur oreille, ou son oreille, ou son cœur à Pharaon se sont endurcis. Alors qu'est-ce qui produit des cœurs et des oreilles endurcis, rendus insensibles? Et des yeux bouchés. D'un côté, c'est l'homme qui est désobéissant, qui ne reçoit pas la parole. Et d'un autre côté, c'est la prédication de la parole de Dieu lui-même. Que ce soit par Moïse, que ce soit par Esaïe, par Jésus-Christ, parce qu'ils ne veulent pas comprendre les paraboles de Jésus-Christ, par les apôtres, dont Paul, qui utilise à nouveau Esaïe dans Actes, chapitre 28 qu'on a lu. Et même encore aujourd'hui, les vrais enseignants dispensent droitement la vérité pour l'endurcissement de certains, tandis que d'autres reçoivent par la foi. Donc là, on n'aura pas le temps, mais je vous encourage à lire Ézéchiel 33, 10 à 11, où il est question du cœur de Dieu, qu'il ne veut pas que l'homme meure, mais au contraire, de peur que je ne les guérisse, il dit. Il veut que les hommes soient spirituellement guéris, leur âme soit guérie, soit sauvée. Et c'est dans ce contexte, quand Esaïe écrit de la part de Dieu, rend insensible le cœur de ce peuple, endurcit ses oreilles, bouche-lui les yeux, selon la compréhension de Jésus-Christ, selon la compréhension de Paul, la volonté de Dieu est bien de guérir pour qu'ils ne se convertissent. Mais la prédication continuelle les endurcit à cause de leur désobéissance, tandis que Esaïe doit malgré tout prêcher, Paul doit malgré tout prêcher la parole. C'est avec tous ces textes que nous pouvons comprendre un peu. Hein. Bien sûr, là, on a un après-midi, on n'a pas clos le débat. Hein. C'est un débat sain, parfois. Et si ça s'est fait dans la bonne attitude. Mais il est là, en fait, le sens même. Donc, pensez à cette illustration de la Tour Eiffel, avec ses piliers de texte de la parole. Et que prenant ces quatre piliers de texte, ou d'autres piliers de texte, il y en a un sur ces passages. Mais ces auteurs, ils prennent directement. Paul, il emprunte directement quand il dit, Jésus, il emprunte directement d'Esaïe. Et c'est comme ça qu'on comprend les vases d'honneur et les vases de déshonneur. Donc, les caractéristiques des faux enseignants maintenant, donc, qui sont endurcis et qui sont illustrés par ce vase de déshonneur.
Regarde, il dit, je l'ai marqué là, Dieu endurcit qui il veut et fait miséricorde à qui il veut.
C'est ça le débat, en fait. Est-ce que Dieu, d'une manière arbitraire, endurcit qui il veut? Ou est-ce que la parole qui a été prêchée et qui est continuellement prêchée et la prophétie est donnée continuellement, qui endurcit le cœur de Pharaon. En quelque part, Dieu endurcit dans le sens que la prédication de la parole endurcit le cœur. C'est comme ça qu'on peut comprendre. Hein. Enfin, ma compréhension de la chose, c'est ça. C'est pour ça que Jésus il dit, de peur qu'ils ne se convertissent. De peur qu'ils ne soient guéris. De peur que je les guérisse. Donc Dieu, Jésus-Christ, met la responsabilité sur ces hommes juifs, ces pharisiens qui étaient en face de lui en train de le lapider, avant même de le crucifier, presque, en quelque sorte. Ouais. Et Paul, il reprend ce passage d'Ésaïe aussi, et puis qui est repris ici dans l'endurcissement de Pharaon. Je t'écoute.
Si je comprends bien la formule qui est tirée de cette réflexion, c'est que l'endurcissement, c'est toujours le résultat de la réaction de celui qui écoute.
Exactement.
Dans toutes les situations. Quand Dieu est dit dans certains passages qu'il endurcit les cœurs, en fait, il n'agit pas directement dans le cœur pour l'endurcir, mais il envoie toujours sa parole, et par réaction à cette parole, l'homme endurcit. Donc c'est toujours Dieu endurcit dans le sens où il envoie toujours sa parole. Par contre, en réaction à cette parole, ceux qui n'écoutent pas endurcissent son cœur. Donc, c'est jamais la responsabilité de Dieu.
C'est ce que je comprends aussi.
Voilà. Et justement, le rôle du chrétien, dans ce cas, c'est toujours continuer dans le rôle de Dieu, de toujours continuer à parler, que ce soit, qu'il soit déjà endurci ou qu'il est prêt à écouter, on envoie toute la parole. Parce que je pense que l'endurcissement, c'est plutôt le résultat. C'est à la fin qu'on voit s'il y a un dossier ou pas. S'il, à un certain moment, au fur et à mesure qu'on envoie, il est toujours endurci et que finalement il accepte la parole, ben là, on a gagné, on va dire.
C'est la bonne
victoire. Mais si on voit qu'il est endurci et qu'on arrête de prêcher, c'est la mauvaise réaction. C'est la mauvaise
attitude.
En tant que envoyé de Dieu, quoi, en tant que celui qui.
Ouais, parce que notre devoir comme chrétien, c'est de prêcher, de parler, d'évangéliser. Mais la parole de Dieu, elle a dit, l'autre, s'il a qui écoute pas, c'est son problème, s'il a adouci ou pas. Mais nous, on doit prêcher, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
On doit prêcher, on doit
évangéliser,
on doit parler du salut, on doit faire notre part. Et c'est Dieu qui fait le reste. Un jour, il va ouvrir son cœur. C'est comme nous, on a été comme ça aussi. Moi, je parle de moi. Avant, je n'étais pas chrétienne, mais il y a quelqu'un qui m'a parlé. Le début, j'ai été mon cœur endossé, mais après, je commence à travailler dans ma tête, dans mon cœur. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail, c'est pas la personne. Il envoie la personne pour évangéliser, pour parler du salut, mais c'est le Saint-Esprit qui fait dans ton cœur, tu travailles, après tu es prêt, tu acceptes le Seigneur. Mais notre devoir, c'est prêcher, c'est parler de la parole de Dieu.
Mais c'est important, parce que si là le rôle de Dieu dans l'endurcissement, c'est vraiment toujours d'envoyer sa parole, qui peut se traduire en une bonne terre ou en mauvaise terre endurcie. Parce qu'il y a aussi, je ne sais pas si c'est quel côté, c'est la ministre ou le calviniste qui croit que comme c'est une élection et que le cœur endurci, c'est le fait de Dieu et que de toutes les façons, il ne va pas écouter, on ne prêche plus la parole.
D'accord.
Ça, c'est une mauvaise attitude, si j'ai bien compris. Parce que l'endurcissement, c'est pas un état d'une élection permanente, mais c'est le fait de réagir par rapport à la parole. Donc, faut toujours prêcher. C'est continuer dans cette.
Oui. C'est intéressant ce que tu dis. Enfin, tu as ajouté le côté réaction.
Oui.
C'est le retour en fait. Et tout le mal dans ce débat, hein, enfin entre nous on se parle, c'est bien en fait ce sujet, c'est que on tombe un peu dans la paresse. Et c'est surtout ça, pas qu'il ne faut pas faire, parce que beaucoup de cœurs ont dit ainsi, le Seigneur il continue à travailler, le cœur de Lydie a été ouvert par le Seigneur, donc notre rôle, notre responsabilité c'est cela, et il est de la responsabilité de l'homme, de tout homme, de toute femme, de recevoir la parole. Et c'est toute cette question de réaction et de, cette, de ce retour aux réponses qui fait qu'on se constate que oui, tel est endurci de cœur. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de prier pour cette personne, que ce soit quelqu'un de notre proche ou quelqu'un de nos familles un peu plus éloignées, ou qui que ce soit à qui il en prie, le Seigneur pour le salut. Notre rôle, c'est d'apporter l'évangile au moment propice, dans les prières, dans la bonne attitude, et de prêcher vraiment l'évangile.
Comme mon bon frère, avant le début de ma convention, lui, il était fort contre, et même il disait, tu vas donner ton dîme au pasteur. Il dit, non, on ne donne pas le dîme au pasteur, on rend qu'est-ce qui se passe, nous, parce que la parole de Dieu, elle a dit. Mais toujours, même avec sa femme, et lui, il ne voulait pas qu'elle vienne à l'église, tout ça, bon. Ça a été un cœur très, très, très dur. Mais il y avait pas mal de gens qui priaient pour lui, et qui prêchaient aussi pour lui, qui évangélisaient. Après 20 ans, je crois, 20 ans, il acceptait le Seigneur. Après tout ça, et Jésus, il transforme le cœur. Et maintenant, il est complètement différent. Même si quand on a été au Brésil, je dis qu'il avait, vient d'accepter, c'est vraiment un cœur transformé. Mmh. Et Dieu il a eu la miséricorde, hein? La miséricorde vers lui. Et maintenant, il fait même du don pour les missions, pour évangéliser, tout ça. Qui avant, il ne voulait rien savoir, et c'était français, il connaît. Il était totalement... J'ai vu un grand changement dans sa vie. Mais Dieu, il a adouci son cœur pendant 20 ans. Hein, mais sa femme, elle n'arrêtait pas de prier. Nous aussi, dans l'église aussi, on a prié toujours pour lui. Des amis aussi, on a prié toujours pour lui. Même Dieu a donné une maladie à lui. Il est venu parce qu'il était très, très malade. Parce que du fait... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais du fait, les gens ils disent, si tu ne viens pas avec l'amour, tu viens avec la tristesse, parce qu'il était très malade. Mmh. Et depuis ça, il est fort attaché au Seigneur. Mmh. Et je dis merci Seigneur, parce qu'il a accepté.
Merci pour ce témoignage, parce que, comme tu dis, en fait, la grâce de Dieu, parfois, c'est même à travers des maladies.
Voilà.
Et Dieu, d'ailleurs, comme on avait vu, c'est une grâce aussi de souffrir pour Christ. Dans Philippiens, ce matin, on avait lu ce passage. Donc, la grâce de Dieu est toujours là, même parfois par des maladies.
Et Dieu l'a guéri. Hein?
Et c'est Dieu qui guérit.
Et il a guéri sa maladie.
C'est-à-dire, il dit, même dans ce passage, on a vu cette guérison, hein, de peur que je ne les guérisse. Donc, Dieu veut toujours cette guérison spirituelle. Voilà, donc merci pour ces témoignages, en tout cas, qui sont très encourageants, comment Dieu sauve. Et Paul, il dit hein, dans la lettre à Timothée, dès le début, il commence comme ça, Dieu nous a sauvés avant le temps éternel, selon la grâce qu'il nous a accordée. Et c'est pour ça que ce matin, j'étais très encouragé dans le culte sous le thème de la grâce que tu as mené, parce que Dieu est l'auteur du salut éternel. C'est ce qu'on est en train de réfléchir avec ceux d'entre vous ont la lettre des Hébreux, en fait. Hein.
Par rapport à ce que j'avais dit, que c'est les résultats, en fait, qui comptent, qui permet de trancher entre un dossier ou pas. Parce que nous avons cette tentation de juger les gens en disant, celui-là, il a un dossier et on ne le traite plus. On ne fait plus quoi que ce soit avec lui. Mais
C'est l'exemple qui était pris dans le passage, justement, c'est Pharaon. Pharaon, jusqu'à la fin, c'est vrai qu'il est dit qu'il est en dessus de son cœur, mais à chaque fois qu'il y a des miracles, il s'est repenti. On va dire que bon, il arrive à un bon raisonnement, finalement. Tiens, il accepte que les gens viennent, qu'ils s'en vont. Puis après, il a endossé son cœur. Puis après, il se répand. Puis après, jusqu'au dernier moment, ben, la finalité de ça, c'est qu'il se termine. Il finit par être cassé par cet endossissement. Donc, c'est le résultat final que nous ne connaissons pas. Il n'y a que Dieu qui y connaît. C'est pour ça qu'on peut pas, on ne peut jamais juger ou estimer quelqu'un par rapport à ce que nous voyons ou ce que nous pensons. Il faut toujours penser que Dieu travaille dans son cœur et qu'on continue à lui prêcher la parole, à continuer à prier, évangéliser. Jusqu'au dernier mot.
Nous, on n'est pas, on n'est ni omniscient, on n'est ni prescient, et c'est Dieu seul qui sait tout, qui maîtrise tout ce qui se passe dans le cœur, comme on a dit tout à l'heure avant de commencer avec François et Marie-Madeleine. Notre corps même est complexe. C'est une complexité par rapport à toutes ces cellules et tous ces neurones et tous ces organes dont nous sommes constitués. Et combien plus notre cœur et notre être qui se passe à l'intérieur, dans l'âme, dans tous les hommes, c'est encore plus, je ne sais pas, X fois plus complexe. Et Dieu seul a cette maîtrise, a cette faculté. Et puis voilà, la réaction seule, nous, on peut voir. Et Jésus seul connaît profondeur et ce qui se passe dans le cœur. Et au moment même, comme le malfaiteur qui accepte Jésus et qui reçoit Jésus-Christ au point de lui demander s'il peut se souvenir de lui sur la croix, quoi, au dernier moment. Donc les conversions de 11e heure, comme on dit. Dieu veut sauver, toujours. Et il veut que tous les hommes soient sauvés. Ouais. On va rapidement avancer. Il est quelle heure ? Malcara, il nous reste un quart d'heure, c'est ça? Ah bah c'est gentil. Je pensais que c'était fini. Ah, un quart d'heure, on va vite balayer alors. Il nous reste un quart d'heure, donc on va vite voir. Donc il ruine ceux qui écoutent. Donc là, il est question de ces faux enseignants, justement, dont on peut dire les cœurs endurcis. Ils ne veulent plus recevoir la vérité, mais ils commencent à prêcher aussi des fausses choses. Ils avancent des arguments diamétralement opposés à la parole de Dieu. Et le seul but intentionnel, c'est de renverser la vérité. Et cela ne sert qu'à la ruine de leurs propres auditeurs. Et si aujourd'hui, nos générations de jeunes étudiants ou des jeunes écoliers sont dans un état catastrophe, c'est le mot qu'il utilise dans ruine, il dit catastrophé en fait. En avançant des théories, je pense aux agnostiques ou à l'évolution des espèces, athéisme, scepticisme, tout ce genre de isme.
Théorie du genre.
C'est
théorie du genre. De genre ou du genre.
Théorie du genre aussi, tout récent. Le modernisme, postmodernisme, avec toute cette intelligence obscurcie, comme il dit Paul. C'est une intelligence vraiment obscurcie. Donc tous leurs prédicateurs, ce sont des prédicateurs, ils enseignent. Dans les forums, dans les universités. Et tous leurs prédicateurs ruinent non seulement leurs auditeurs, qui eux-mêmes tombent dans leur propre ruine spirituelle. C'est finalement ça, le finalité de la chose, quoi. Donc, l'importance ici, quand Paul il dit dans notre étude, ne discute pas sur les mots, c'est pas la question de ce qu'on... On parle par rapport à un sujet de la doctrine de Dieu entre les enfants de Dieu. Il est important donc de discuter même avec ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, comme tu as témoigné tout à l'heure, Marly, avec quelqu'un de la famille ou nos proches ou nos amis, avec courtoisie, avec humilité. Je pense à Marie-Madeleine pour qui elle prie, enfin de sa famille aussi. Nous avons besoin parfois de discuter avec même des arguments. Comme on a dit sur la conception intelligente, on était en train de parler à table tout à l'heure, ça vise à croître notre connaissance de la vérité de l'écriture entre nous en tant que chrétiens quand on discute sur ces sujets. même parfois de diverses interprétations doctrinales, quand ça arrive entre croyants, de discuter d'une manière édifiante, en considérant la Bible, la parole de Dieu. Et c'est parfois même utile, je dirais, avec les incroyants aussi, si surtout leur cœur s'ouvre, s'ils demandent raison. Et Pierre, il dira à quiconque demandera raison de votre foi, expliquez-leur avec douceur et respect, il dit, et humilité. Donc, qu'ils soient dans la recherche de la vérité, c'est le cœur qui est quasiment propice pour parler justement avec ces discussions. Donc, l'apôtre évoque ici ceux qui se positionnent plutôt en élevant des pensées contre Dieu et à qui il est inutile à un moment donné de parler. C'est ça qu'il dit en fait. Et sa connaissance salutaire. Donc, il n'est pas en train de décourager les discussions des chrétiens entre eux. C'est ça qu'on doit, comprendre, ouais. Il professe des discours vains et profanes vers l'impiété. Et dans ce deuxième caractéristique des faux enseignants, on parle de leur impiété. Et Timothée, en tant que représentant pastoral de cette église à Éphèse, il doit être resté vigilant, aussi bien dans sa vie privée, intime, physique, par rapport à sa vie morale, mais aussi vigilant en face des hérésies évidentes qui se forgent dans ces régions autour de ces églises. Et c'est là dont il est question des propos profanes, pervers, vains, des faux enseignants. Donc ce sont des faux enseignants qui s'écartent de la lignée des apôtres, même toujours leurs disciples sont menés vers l'impiété à travers toutes ces choses. L'hérésie des apostats, ici on a aussi des apostats, ça c'est un autre sujet aussi dont Paul traite, donc on balaye rapidement, hein, on survole, hein, je veux dire. Hyménée, déjà cité dans la première lettre de Paul, apparemment il niait, un peu comme les philosophes grecs, qui considéraient le corps comme étant foncièrement mauvais, intrinsèquement mauvais. Du coup, la résurrection corporelle des croyants, directement liée à la résurrection du corporel de Jésus-Christ, est niée par ces hommes. Alors que nous croyons qu'il y a une résurrection corporelle. Le corps est semé corruptible, mais il ressuscitera incorruptible. C'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 15. Donc en disant que la résurrection a déjà eu lieu, il limite la résurrection à une unique union spirituelle avec Christ, comme étant la seule résurrection possible. Pas forcément une résurrection corporelle. C'est ce qui est possible peut-être dans leur fausse interprétation. Donc il y a tout ce genre de fausse interprétation. On va rapidement voir maintenant le caractère de l'enseignant selon Dieu, illustré par Paul dans ce vase de honneur. Donc il a besoin de s'efforcer. Efforce-toi. C'est ce qu'on lit dans le verset 14. Et ça demande une recherche patiente. Parfois on a la pression de la vie et on cherche pas la vérité, la parole, mais il faut s'efforcer quand même, demander vraiment au Seigneur, se faire la force quelque part, se dire: Seigneur, je me fais violence pour venir à toi, je t'implore, je te supplie. Et donc cette recherche persévérante dans l'objectif d'être un vase de honneur, tant par notre vie que par l'exposition de toute la doctrine chrétienne. Et cet homme-là dispense droitement la parole de la vérité. Il est question d'un orthotoméo, c'est le mot un peu, d'où vient le mot orthodoxe d'ailleurs. Littéralement, ce mot veut dire trancher en ligne droite, dispenser droitement, clairement, purement la parole de la vérité. Un peu l'explication un peu que certains commentateurs donnent, ils pensent à Paul qui fabriquait des tentes avec des coupes droites et des morceaux de cuir, et qui fait des coutures avec soin pour prendre des tentes. L'image est là dans ce mot en fait. Un peu comme le maçon aussi qui construit en posant des briques tout droit en fait. L'idée de droitement, ouais, c'est ça. Ou un fermier qui laboure en sillonnant tout droit le champ. Donc droitement la parole de la vérité. Donc l'enseignant orthodoxe, il se rapporte dans le sens qu'il dispense droitement la doctrine de la foi chrétienne. Donc je crois que personnellement, on est tous ici des privilégiés, hein, pour avoir reçu cette parole. C'est une grâce de Dieu. surtout en France, hein, je pense, il n'y a pas beaucoup qui reçoivent d'une manière visible, humainement parlant. Mais le fait d'être exposé comme ça dans des églises, c'est un privilège. Et Dieu, il est honoré par ses vases de honneur, comme il dit. Hein. Donc, Jésus-Christ, il dira à un de ses ouvriers, « Viens, bon et fidèle serviteur. » Il finit avec cet encouragement de ce serviteur, de cette servante, comme Marie qui s'assoit et qui choisit la bonne part pour écouter la parole de la vérité. C'est ainsi qu'un chrétien, un disciple, un vrai enseignant de la parole, qui a soigneusement sondé la vérité de Jésus-Christ, et sa parole sera un ouvrier qui ne rougit point. Il est éprouvé dans le sens passé à la loupe, passé au creuset comme l'argent, ou l'or qui passe par le feu, hein, pour être débarrassé de toutes les scories et les déchets. Il se présente devant Dieu. Ça aussi, c'est un mot très intéressant. Il se tient à côté de Dieu, littéralement. Il se présente devant Dieu pour passer à l'évaluation et à l'approbation même de Dieu. C'est Dieu qui approuve cet homme. C'est Dieu qui approuve cette femme. Donc, ce ne sont pas les dons spirituels, ce ne sont pas les capacités, humainement parlant, qui intéressent Dieu, mais plutôt, est-ce que l'homme ou la femme, ainsi que l'enseignant selon Dieu, est-ce qu'il est passé par l'évaluation de Dieu lui-même et qui peut tenir son cœur en se présentant devant Dieu, sa vie aux côtés de Dieu pour obtenir son approbation. Et voilà le vase d'honneur dont il est question ici, ce vase timen d'honneur. Et lui, il reçoit, cet homme, cette femme reçoit l'approbation de Dieu lorsqu'il se conserve pur, comme nous avons même étudié avec les jeunes, hein, ici même, en s'abstenant de toute souillure, d'impureté, de désobéissance, et en ayant cette conduite en toute bonne conscience devant Dieu, comme dira Paul. Donc on conclut un peu maintenant toute cette série d'études. Donc prions le Seigneur pour que notre vie devant Dieu, comme Paul il dit ici, tu es devant Dieu Timothée, des hommes et des femmes de Dieu comme Lydie dans le Nouveau Testament, on voit aussi, Aquila, Priscille, qui se tiennent devant Dieu et reçoivent l'approbation afin d'être des vases d'honneur éprouvés par l'Éternel dans le but de vivre pour lui et enseigner sa parole dans la formation d'autres disciples et dans la transmission de l'enseignement de sa parole. Donc je tiens à vous remercier, vous particulièrement, hein, pour cet accueil et puis votre amour pour la Bible, la parole. Et je pense qu'il y a de quoi dire gloire à Dieu pour tout cela.
L'enseignement orthodoxe se rapporte donc dans le sens qu'il dispense droitement la doctrine de foi lorsqu'il s'exprime. Mais les orthodoxes, ils ne croient pas comme nous.
Ça, c'est une autre question que tu soulèves.
Comme le sens du mot catholique aussi.
Exactement. Tu as entendu ce qu'il a dit ?
Non.
C'est le sens du mot catholique aussi.
Ah, d'accord.
Nelson, il parle de catholique dans le sens universel. Donc, si tu prends le sens de Église catholique, c'est l'Église universelle. C'est ça le mot kathos. Pareil, ortho, orthotomeo, ici c'est le verbe que Paul utilise, c'est dispenser droitement, d'une manière, comme on a vu ces illustrations, hein, celui qui laboure, il sillonne d'une manière tout droit son champ, et ce maçon qui pose tout droit, ou Paul même qui coupe tout droitement ses morceaux de cuir pour faire les tentes. L'idée derrière ce mot, c'est ça. Mais maintenant, l'Église catholique ou l'Église orthodoxe, ce qu'ils ont fait à partir des lettres de l'apôtre Paul, tout le débat est là. Est-ce qu'ils ont prêché la lettre des apôtres comme cela a été reçu? Et c'est ce qu'il dit, hein. Je suis l'apôtre de Dieu, appelé de la part de Dieu, et je parle selon l'ordre de Jésus-Christ. Et donc ce que tu as reçu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes droits qui soient capables eux aussi d'enseigner à d'autres hommes. Et dès lors que l'Église a perdu, du moins à partir de l'an 90, hein, cette instruction apostolique que nous considérons comme orthodoxe, quelque sorte, on peut dire les baptistes sont orthodoxes dans le sens, encore une fois, sans vouloir se glorifier du nom ou de la dénomination baptiste, si on s'appelle autre chose que baptiste, c'est pas un problème. Hein. L'idée, c'est de dire qu'on prend la Bible, rien que la Bible et toute la Bible, et prêcher selon les instructions, les consignes apostoliques des apôtres qu'on est en train de voir. Maintenant, l'Église catholique ou orthodoxe Il faut voir là où ils ont dévié. On ne dit pas qu'ils ont tout faux dans tous les domaines. Hein. Parce que dans le credo catholique, par exemple, il y a la doctrine de la Trinité. Nous croyons que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, le souci, le problème majeur qui s'est posé parmi les faux enseignants, encore une fois, des vases de déshonneur, sans vouloir citer des noms, c'est qu'il y a eu un écart de la parole droitement qu'il fallait dispenser, et qu'à partir de cet écart, on est parti sur toutes sortes d'adorations, toutes sortes de cultes, extra-enseignements bibliques, d'où on est obligé de mettre la chose clairement sur la table en disant « ça c'est une fausse doctrine, le culte marial n'est pas biblique ». Il y a un seul médiateur, le médiateur de la Nouvelle Alliance. Exactement. Un seul homme médiateur qui s'est donné comme rançon pour tous. Donc c'est là où on a des problèmes avec l'Église orthodoxe, parce que j'ai pas étudié en profondeur hein, sur les confessions de foi des églises orthodoxes, je ne suis pas un expert non plus de confession de foi des catholiques, mais en France d'ailleurs, je connais un frère qui est sorti de ce milieu, il nous a fait une conférence une fois à Luxembourg, son nom m'échappe, Bernard quelque chose, ouais. Lui il a fait pas mal d'études là-dessus. Ici dans la librairie, j'ai vu aussi des bouquins qui traitent sur toutes ces doctrines des églises qui n'ont pas prêché l'enseignement selon la vérité. Même ce qu'on disait hein, dans la lettre aux Hébreux, tu te rappelles, on est en train d'étudier la prêtrise de Jésus-Christ, et donc c'est une fois pour toutes, le sacrifice a été accompli. Or, si dans l'autel de la messe catholique on offre à nouveau les sacrifices, ce n'est pas scripturaire, c'est ça qu'on est en train de dire. Alors cette question, c'est nous, on ne peut pas dire que les catholiques, tous les catholiques ne sont pas sauvés, mais l'enseignement de la religion catholique, elle n'est pas droitement selon la parole, selon la vérité, dans plusieurs domaines. Donc ils n'enseignent pas la Bible. Maintenant, individuellement, Dieu connaît les cœurs de certains. Moi, j'ai des amis catholiques. Et puis j'ai toujours une bonne relation avec un de mes amis. Il habite à Lyon. J'ai une très bonne relation avec lui et on doit prier pour eux, et tant que l'occasion se présente et qu'ils sont à l'écoute, il faut leur parler de Dieu, et donc c'est la raison pourquoi il faut considérer. Donc on va prier, peut-être le temps avance,
juste pour assurer Madeleine. Donc si l'enseignant orthodoxe, ça veut dire l'enseignant selon l'orthodoxie biblique, voilà. Mais il ne parlait pas de l'orthodoxie, il disait orthodoxe.
D'accord.
C'est pas l'enseignement de
l'orthodoxie. C'est plus clair ?
Oui.
Comme il dit, oui. C'est ça. On pense orthodoxie, le mot, par rapport à l'enseignement de la Bible, qui est dans la Bible, pas par rapport à notre compréhension de l'Église orthodoxe aujourd'hui.
Voilà.
C'est ça. Prions en tout cas. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes, que tu nous as donné de ces riches discussions que nous avons eues aussi cet après-midi et ce matin. Nous prions que tu nous éclaires davantage et que tu inclines, tu attires notre cœur envers ta parole, vers ta parole, et que nous puissions en faire les délices de nos cœurs. Et merci pour cette église que tu as implantée ici à Lille, et que tu puisses bénir cette église dans son attitude qu'elle a envers ta parole, et nous sommes vraiment encouragés, et que tu continues à œuvrer parmi ce peuple ici, et nous prions pour le salut des âmes. Que tu sauves, que tu rassembles ton peuple et que tu fasses croître et bénis ton œuvre. C'est au nom précieux de Jésus-Christ. Je te prie, Père Céleste. Amen.
Amen.
Merci de l'attention.